Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce nouveau journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, les encouragements du Conseil de sécurité au nouveau gouvernement somalien, la promotion de la santé des femmes, la poursuite des efforts humanitaires de l'ONU en RDC et la Côte d'Ivoire qui continue de fêter son titre de champion d'Afrique. Dans le dossier, retour sur le nouveau naufrage de migrants en Méditerranée et puis coup de projecteur sur les problèmes urbains et l'avenir des villes. Le Conseil de sécurité salue l'investiture par le Parlement somalien le 9 février du nouveau gouvernement formé par le Premier ministre du pays, Abdi Welli Sheikh Ahmed. Selon la presse, le nouveau cabinet, qui comprend 55 ministres, a été formé la semaine dernière par Abdi Welli Sheikh Ahmed, qui a ensuite sollicité l'approbation du Parlement pour son programme gouvernemental. Cette investiture survient après des semaines de crise politique. Le point avec Isabelle Dupuis.
Dans un communiqué de presse rendu public mardi, les membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité pour le nouveau gouvernement somalien d'accélérer la dynamique de fédéralisation du pays, notamment ce qui concerne le partage du pouvoir et des ressources. Un référendum constitutionnel et des élections sont prévues en Somalie en 2016. Les 15 ont également souligné l'importance pour le nouveau gouvernement de faire des progrès rapides dans la mise en œuvre des priorités du pays, à commencer par l'établissement de la Commission nationale électorale indépendante et l'instauration des administrations régionales provisoires, de même que la stabilisation des zones libérées du groupe terroriste Al-Shabaab et la reprise de l'application et de la révision de la constitution provisoire. Les 15 ont par ailleurs appelé les dirigeants de la Somalie à développer des mécanismes efficaces afin de prévenir les crises politiques prolongées à l'avenir.
Merci Isabelle. L'ECOSOC, le Conseil économique et social, a organisé ce mercredi un forum de haut niveau sur la santé des femmes et le développement, lequel devrait déboucher sur l'adoption d'une déclaration sur la création d'un programme mondial ambitieux pour promouvoir la santé des femmes, un domaine auquel la recherche n'accorde toujours pas suffisamment d'attention. Le docteur Nisrine El Hachemit est la directrice exécutive du Royal Academy of Science International Trust et la fondatrice du Forum mondial sur la santé des femmes et le développement.
Outre la santé et la médecine sexuelle ou reproductive, la question de la santé des femmes n'a pas été suffisamment débattue dans le monde. Cette absence de connaissances a une incidence non seulement sur les femmes, mais aussi sur les hommes et l'ensemble de la société. Il est important de se rendre compte que les femmes et les hommes ont différents besoins médicaux et des réactions différentes au traitement pour de nombreux problèmes de santé. Négliger ces différences et se focaliser uniquement sur de soi-disant questions de femmes promeut non seulement les stéréotypes et les idées fausses sur les défis de santé auxquels les femmes risquent de faire face, mais a également une incidence sur notre capacité à protéger et à promouvoir la santé des femmes de la manière la plus complète et efficace possible.
L'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, vient de lancer à Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, son plan d'action humanitaire 2015 en République démocratique du Congo. Le plan cible 5,2 millions des Congolais sur les 7 millions de personnes qui sont dans le besoin. La correspondance à Bukavu d'Emmanuel Elamedji de Radio Okapi.
692 millions de dollars, c'est le budget retenu pour la réponse humanitaire RDC en cette année 2015. Il affiche une différence de 17% par rapport au budget humanitaire de l'année 2014, qui était évalué à 832 millions de dollars américains. Le coordonnateur humanitaire affirme que les progrès ont été réalisés grâce à la hauteur du financement reçu de partenaires.
Si le budget demandé en 2015 est inférieur à celui de 2014, cela ne traduit pas une baisse des besoins en RDC. Mais c'est l'aboutissement logique d'une meilleure planification, à savoir l'aperçu des besoins humanitaires et le plan de réponse stratégique.
OCHA confirme que les besoins prioritaires identifiés pour cette année sont demeurés les mêmes que ceux de l'année 2014. C'est notamment la protection des victimes de violences et conflits, les victimes de crises nutritionnelles, celles des épidémies ainsi que les catastrophes naturelles. La province du Sud-Kivu, à elle seule, aura besoin de 119 millions de dollars. Emmanuel Elamedji Wakabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis après la victoire de l'équipe nationale de football en finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs ivoiriens ont été accueillis par le président Alassane Ouattara au stade Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État a rendu hommage à la victoire des éléphants en estimant qu'elle est source d'espoir pour l'avenir du pays et la réconciliation nationale.
Vous nous donnez par cette victoire une belle leçon de courage, de solidarité, de cohésion et surtout de détermination. Nous saluons votre engagement. Vous avez réussi à reconstruire une équipe unie, solidaire, avec un seul objectif, gagner, gagner, gagner. Mes chers compatriotes, nos éléphants nous montre le chemin. Oui, à chaque Ivoirien, à nous les hommes politiques. Oui, ces jeunes, nos enfants, nous disent de nous retrouver ensemble, de faire la paix, de faire avancer la Côte d'Ivoire. Vous venez de nous donner une véritable leçon, une leçon d'humilité, une leçon de rassemblement, et une leçon aussi de foi en l'avenir de notre pays.
Enfin, à J-2 de la Journée mondiale de la radio, on écoute le plaidoyer de l'acteur Guillaume Gallienne pour les jeunes et la radio. Guillaume Gallienne, qui anime l'émission « Ça peut pas faire de mal » sur Radio France, dresse les avantages comparés des médias et pour lui, il n'y a pas photo, la radio l'emporte haut la main.
Oui, il faut encourager évidemment les jeunes à participer plus à ce média parce que je trouve ce média, c'est un vrai fil rouge, la radio. Je trouve qu'autant la télé change énormément et souvent malheureusement se réduit, autant la radio, ça traverse des générations et des générations et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment perverti. Et dans son rythme, et dans les sujets abordés, la manière dont on les aborde. Il y a une chose assez essentielle dans la radio qui est que ça excite beaucoup plus l'imaginaire que n'importe quel autre média. Puisque laisser à entendre, dans le sens de l'ouïe mais aussi de l'entendement intellectuel, laisser entendre, c'est l'imaginaire après qui rend concret tout ce qu'on a entendu.
Vous écoutez un programme de la radio des Nations Unies.
Retour sur les derniers naufrages de migrants en Méditerranée. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est choqué par l'ampleur de la tragédie. Dimanche, 29 réfugiés et migrants sont décédés sur un dériveur et plus de 80 survivants ont débarqué à Lampedusa après avoir été secourus lundi par les gardes-côtes italiens et un navire marchand. 300 personnes seraient toujours portées disparues. Le HCR qui exhorte l'Europe à consacrer plus de moyens dans les opérations de recherche et de sauvetage pour sauver les vies. Christina Silvero a joint Francis Marcus, porte-parole du HCR, à Genève.
Environ 300 personnes sont portées disparues. Ces personnes faisaient partie d'un groupe de migrants et de réfugiés qui avaient quitté la côte libyenne à bord de 4 canots pneumatiques. C'est une tragédie de grande ampleur et un rappel qui laisse envisager encore davantage de pertes en vie humaine si ces personnes en quête de sécurité sont laissées à la merci des océans comme ça.
Comment est-ce que les autres personnes ont été retrouvées et sauvées?
Tout d'abord, il y avait 29 personnes qui ont trouvé la mort lundi au large de Lampedusa et qui sont principalement mortes d'hypothermie à bord des vaisseaux qui les ramenaient en Italie. Aujourd'hui, on a eu l'information selon les gardes-côtes italiens qu'il y avait encore presque 300 personnes portées disparues. Il y avait très peu de personnes qui avaient survécu sur des embarcations qui viennent d'arriver. Il y avait plus de 110 rescapés qui avaient débarqué à Lampedusa au début après avoir été secourus par des gardes-côtes et un navire marchand italien. Mais là, il y avait des canots pneumatiques. Il y avait un canot où il y avait que 2 passagers qui ont survécu sur un total de 107. Et puis, il y avait un autre où il y avait 7 passagers sur un total de 109. Et il y avait un 4e canot pneumatique qui a été signalé par les survivants, qui n'a pas encore été retrouvé.
C'est une expédition différente de celle de lundi?
C'est une série de canots pneumatiques qui ont quitté un port vraisemblablement près de Tripoli. Nous craignons que ça soit le début d'une tendance croissante de départ en mer à partir de Libye parce que, comme vous le savez très bien, la situation en Libye est très tendue, les conflits sont très très aigus et avec l'absence d'une opération robuste pour la recherche et le sauvetage en mer Méditerranée, nous craignons qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui pourront trouver la mort de cette façon tragique.
Vous avez dit que ces embarcations partent de la Libye. Qui est à bord de ces embarcations?
Nous n'avons pas d'informations précises sur les nationalités de ces réfugiés et ces migrants, mais ils sont principalement originaires de l'Afrique subsaharienne. Effectivement, il y a des personnes de tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui arrivent à entrer en Libye et qui essaient de passer par la Libye et qui sont les proies de ces passeurs qui dirigent ces services de passage en Méditerranée qui amènent les gens vraiment en danger mortel.
Alors le HCR critique quand même l'opération Triton de l'Union européenne et qui demande davantage d'accent sur la recherche et le sauvetage.
Oui, l'opération Triton menée par Frontex se concentre pas vraiment sur la recherche et le sauvetage et ne fournit pas les outils nécessaires pour gérer des crises de grande ampleur comme ça. Ce n'est pas vraiment une opération qui puisse remplacer effectivement l'opération de la marine italienne Mare Nostrum. Ben, il faut mettre beaucoup plus de ressources sur la recherche et le sauvetage en Méditerranée centrale et pas seulement au large des côtes de l'Italie. Le Mare Nostrum a envoyé des vaisseaux dans les eaux très proches, par exemple, de la côte libyenne. Et l'envergure de l'opération Mare Nostrum était beaucoup plus étendue et beaucoup plus grande que celle de Triton.
Le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat a récemment organisé au siège de l'ONU un événement de haut niveau consacré à l'avenir des villes et aux problèmes urbains. Un défi de taille alors que 24% de la population urbaine mondiale vit dans des bidonvilles et que d'ici à 2030, 3 milliards de personnes auront besoin d'un logement adéquat. Yamina Jakhta est directrice du bureau de New York d'ONU Habitat. Elle est au micro d'Isabelle Dupuis.
Bonjour, Yamina Jakhta, vous êtes donc la directrice du bureau de New York d'ONU Habitat. Aujourd'hui se tient au siège un important événement consacré aux défis urbains et aux problèmes des villes en général. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de que sont ces défis urbains?
Les défis urbains du 21e siècle, c'est le fait qu'il y aura un taux d'urbanisation qui va être très élevé, surtout pour les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Il y aura encore plus 90% de la croissance urbaine va en fait se passer dans les pays en voie de développement. Les pays développés sont déjà très urbanisés. Mais 90% donc du développement urbain va se passer dans les pays en voie de développement. Trois raisons. Première raison, c'est dû à, donc à la population, la croissance naturelle de la population dans les villes. Deuxième raison, il y aura une forte population qui sont en train déjà d'aller des campagnes vers les villes pour chercher de meilleures conditions de vie, chercher du travail, etc. Et la troisième raison, c'est les personnes qui sont victimes des désastres, que ce soit naturels ou conflits, et donc le déplacement des personnes de ville en ville ou d'autres régions d'un pays à un autre, et évidemment les réfugiés. Et donc ces problèmes, ces défis urbains font que les villes, surtout les pays, on voit les pays qui ne sont pas bien équipés, qui n'ont pas les ressources, etc., ne sont pas préparés à accueillir cette population et à leur offrir des conditions de vie convenables, surtout un travail, l'habitat convenable, l'accès à l'eau, à l'assainissement, aux moyens de transport, etc. Et c'est pour ça qu'on a une prolifération des bidonvilles. À Nairobi, c'est Kibera, où il y a donc l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. En Amérique latine, c'est les favelas au Brésil, c'est les communes en Colombie, etc. On a déjà près de 1 milliard de populations qui vivent dans les bidonvilles. Et si on ne fait pas attention et qu'on ne trouve pas des solutions à ces défis urbains, cette population va doubler dans les années qui viennent. Et malheureusement, si on ne prépare pas les villes, ces personnes vont renforcer les populations dans ces bidonvilles-là.
Vous évoquez beaucoup de problèmes liés à un manque d'infrastructures, au manque de perspectives économiques pour les nouveaux habitants citadins. Qu'en est-il des systèmes juridiques? Est-ce qu'ils font aussi partie du problème?
L'un des défis, mais aussi des opportunités pour les villes, c'est par exemple, les villes sont en fait responsables pour près de 70 à 75% de gaz à effet de serre. Et pourtant, les villes aussi offrent la solution au changement climatique. UN Habitat Vision, c'est en fait ce qu'on appelle une approche à trois axes. Et l'un des axes, c'est le problème, c'est le système de régulation des lois et les règlements. La deuxième, c'est ce qui a attrait à la planification urbaine. Et la troisième, c'est ce qui a trait au système de finance des villes. Et oui, système régulatoire, les lois, etc. C'est très important. Il y a un rôle aussi qui doit être joué par le gouvernement au niveau national qui donne le cadre régulatoire général pour la ville nationale, évidemment au niveau local également. Notre vision, c'est d'arriver à des villes qui sont résilientes, qui sont durables et qui incluent tout le monde.
Voilà, et c'est avec Yamina Jakhta que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.